Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parle de la réalité autochtone. Combien de drames avant d'agir? On en parle avec Maître Frédéric Bérard. On parle ici, évidemment, de tout de ce qu'on a trouvé, le charnier d'enfants avec les pensionnats à l'époque. Il y a le ministre Pierre Fitzgibbon qui démissionne de son poste, ministre de l'Économie. Qu'est-ce qu'il faut lire en arrière de ça? Qu'arrive-t-il? C'est quand même grave avant cette relance économique dont on parle. Il y a aussi Dominique Laroche, c'est un ancien skieur acrobatique qui a été arrêté et accusé pour des gestes qui seraient de nature sexuelle. On en parle avec Nada Boumefta. Et pour commencer l'émission, je me pose la question avec vous, le droit criminel a-t-il sa place sur la glace? Évidemment, je parle de l'incident avec Jake Evans, Sheffield, une mise en échec qui fait peur. Est-ce qu'il peut y avoir des accusations? Est-ce qu'il peut y avoir des poursuites civiles? On parle d'autres cas qui se sont passés de la même manière. Et je reviens aussi sur le cas de Michel Brûlé, où est-ce que beaucoup de gens qui pensent qu'il aurait fait par exprès pour disparaître ne seraient pas décédés, mais on n'est pas là, je vous explique tout ça. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
Il y a deux gros dossiers cette semaine qui ont retenu mon attention, pour lesquels je voulais vous en parler, vous dire mon opinion, ma plaidoirie, et c'est évidemment le dossier dont tout le monde a parlé cette semaine au hockey, parce qu'il y a une belle série en cours. Cependant, le premier match contre Winnipeg, Canadien contre Winnipeg, a été terni là, par cet assaut sur le joueur Jake Evans, qui, et pour ceux qui ont vu la scène, c'est assez troublant, là, je veux dire, on voit Mark Sheffield là, qui part là, d'assez loin, là, traverse les lignes et se donne un bon élan. Et donne plaque Evans et Evans revole, si on peut dire, comme une poupée de chiffon. On se dit, est-ce qu'il s'est cassé le cou, la façon qui est arrivée? Heureusement, encore une fois, on apprend qu'il y a une commotion cérébrale, mais il semble correct. Bon, heureusement. Il est arrivé avant aussi l'histoire de Tabarez. Et là, Tabarez, par contre, on a eu peur aussi, sort sur la civière également. Mais rapidement, on voit que c'est un accident. Là. C'est assez évident. Mais c'est pour ça la question, qu'en est-il? Est-ce que le droit criminel a sa place sur la patinoire, surtout dans les ligues majeures comme la LNH, dans le sens que on sait dans le domaine du droit, si on parle du droit du sport, il y a un principe universel qui est l'acceptation des risques. Ton risque, tu l'acceptes différemment, dépendamment du sport que tu pratiques. Si tu joues au hockey dans une ligue sans contact, mais là, évidemment, il y a beaucoup moins d'acceptation du risque. Si tu te fais plaquer, bien, c'est plus grave. Si tu es blessé, parce que tu n'as pas accepté ce risque-là. Si tu jouais à pétanque, même chose. Si quelqu'un te reçoit une boule sur la tête, tu ne t'attendais pas à ça. Par contre, si tu es un joueur de la Ligue nationale, tu signes des contrats de millions, évidemment, le risque est beaucoup plus élevé. Donc, intervenir soit au civil ou au criminel, je sais, c'est beaucoup plus difficile. Il faut bien le comprendre. Un boxeur qui décide de faire de la boxe, ben, il peut pas poursuivre l'autre boxeur parce qu'il lui a donné un coup sur la figure. C'est fait pour ça. Donc, l'acceptation du risque et plus grand. Ça, c'est vraiment le concept de base, là. Et évidemment, il y a deux sections. Si vous voulez bien comprendre tout ça, là, c'est qu'il y a la section criminelle, il y a la section civile. Donc, il peut y avoir les deux. Et c'est pour ça que dans le cas de Sheffield, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il pourrait être accusé au criminel? Ben, ça serait pas facile comme accusation. Honnêtement, moi, je suis persuadé qu'il ne sera pas accusé au criminel. Pour la raison que, je veux dire, un plaquage, je comprends que là, on le voit, il prend de la vitesse, il semble donner un coup d'épaule, ça frappe. Évidemment, le joueur, c'est dangereux, on le sent. Mais est-ce que vraiment il y avait cette intention-là? Parce que c'est ça au criminel qu'on regarde, là. Vous entendez ça dans les films, là, l'intention criminelle, mais c'est ça. Est-ce que c'est un accident? C'est un accident, il n'y a pas d'intention criminelle. Si la personne se blesse, c'était vraiment pas volontaire. Par contre, si on est frustré, on veut que l'équipe paye, puis on fait par exprès, on dit, ben, des fois, on pensait pas le blesser autant, mais on voulait quand même le blesser. Ben là, l'intention est là. C'est dans ce temps-là qu'il y a des accusations. Et on a des exemples dans le passé. Là. On parle du cas McSorley, là, qui a été accusé au criminel, reconnu coupable de voies de fait vis-à-vis Donald Brasher. Mais dans ce cas-là, c'est pas un plaquage. Là. C'est assez évident. On prend le bâton comme une hache, là, puis on donne un coup sur la tête. C'est difficile dans ce temps-là de dire ben ça faisait partie de la game. J'ai frapper. Je voulais pas frapper si fort. Non, tu devais pas prendre ton bâton et le frapper. Vous comprenez la différence? C'est pour ça que dans le cas de Sheffield, oubliez ça, là, il y aura pas d'accusation. Heureusement, il n'y aura pas de poursuite civile non plus parce que il semble pas blessé. On ne souhaite pas de séquelles. Parce qu'au civil, c'est ça, hein, c'est tout le temps les mêmes règles, même sur la patinoire. Faute, dommage, lien de causalité. C'est quoi ça? Ben, la faute, tu commets un acte sur la patinoire que tu n'avais pas le droit de faire. Et bon, évidemment, c'est une faute. Ensuite de ça, ben, le dommage, la personne est gravement blessée, elle ne peut plus jouer au hockey. Puis lien de causalité, ben, c'est que ton coup a causé la blessure qui fait qu'il ne jouera plus jamais. Donc, c'est ça, les règles au civil. Encore là, on a des exemples parce que il y a eu des poursuites, donc McSorley, Brasher, il y a eu une grosse poursuite, là, c'était Todd Bertuzzi qui avait frappé Steve Moore. Et cette poursuite-là, c'est conclu. J'ai pas les montants, mais c'est vraiment, imaginez dans la Ligue nationale, si vraiment on prouve la faute. Les dommages sont quand même plus faciles à prouver parce que c'est des gros contrats de millions. Donc, il y a eu des ententes hors cours dans certains dossiers. Là, on n'a jamais su les montants. Mais on sait d'avance, c'est des gros montants parce que si quelqu'un ne peut plus jouer au hockey, s'il était paralysé, bien évidemment, on peut réclamer toute la carrière qu'il a perdue, là, les contrats du moins signés. Et même dans d'autres genres de ligues, moi, j'ai déjà fait des poursuites entre joueurs de hockey, là, parce que surtout dans une ligue sans contact, parce que là, évidemment, quand il y a contact, on dit que c'est carrément une faute, il devait pas le faire. Mais c'est arrivé aussi au junior AA, c'était un joueur, ça a été un montant record pour un joueur qui n'est pas professionnel, c'était 8 millions. Vous savez, au Canada, 8 millions, c'est beaucoup d'un jugement. On n'est pas aux États-Unis, là, avec café chaud, McDonald's, on donne 1 million. 8 millions, là, c'est beaucoup. Et ça, c'est un joueur là, qui avait été plaqué par en arrière. Et ce joueur-là est devenu paraplégique. Là. Donc, on parle de quelque chose. C'est sérieux, là. C'est vraiment, imaginez, là. Il n'y a pas grand argent qui va compenser ce genre de blessure-là. Là. C'est pour ça que il faut être conscient. On veut pas que le criminel se mélange sur la glace puis qu'on se dise tout le temps, oh, il va être accusé, il l'a plaqué. Puis ça... Non, mais à quelque part, pourquoi toutes ces règles-là sont là, dont la Ligue nationale qui a un processus aussi de sanction. On sait que Sheffield a une sanction de 4 matchs. Là, tout le monde dit, est-ce que c'est suffisant? Ça n'a pas d'allure? Evans ne reviendra pas? Bien, dans ce cas-là, honnêtement, ça peut être suffisant. Parce que le Evans, il va pouvoir remarcher, il n'est pas paralysé, il n'est pas gravement blessé. Mais imaginez des situations où est-ce que ça tourne mal, il n'y a rien qui répare ça, il n'y a rien. Donc, dans la Ligue nationale, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on est plus sévère, puis qu'on le dit d'avance, parce que peut-être pas dire, le joueur ne dira pas « Hey, je vais être poursuivi au criminel. » Je pense pas qu'il se dit ça. Mais s'il fait un coup de cochon, puis qu'on ne le revoit pas de l'année, puis qu'il y a une sanction, puis que, je sais pas, à quelque part, il n'est pas payé cette année-là, hey, il va-tu y penser 3-4 fois? S'il y a une suspension de match, pas 4 matchs, là, minimum 20, ou ça pourrait être une année, c'est ça qui ferait que ça préviendrait ce genre d'acte-là, qui, malheureusement, on va attendre, comme dans toute chose, qu'il y ait un blessé grave, comme dans le cas, je vous parle aux juniors majeurs, là, où est-ce que ce jeune-là de 16 ans qui avait la vie devant lui, qui est paraplégique à cause d'une mise en échec, il n'était même pas professionnel encore. Donc, c'est très grave. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Oubliez les poursuites criminelles pour ce cas-là. C'est sûr que tout ce qui est coup de hockey, quand ça fait du dommage, la preuve, l'intention, cette intention-là criminelle est beaucoup plus facile à prouver. Dans le cas de Sheffield, là, je pense que quand on peut analyser ça tous les sens, mais ça serait difficile d'arriver avec une preuve hors de tout doute raisonnable, hein. Vous savez, c'est à faire d'autres preuves-là, donc qui est difficile. La série se continue, on va écouter ça. On espère qu'il n'y ait plus de blessés de ce genre, parce qu'on a été servi depuis le début avec le Canadien, avec Tabarez, qu'on a eu chaud, Evans, qu'on a eu peur également. Mais on espère que ça va bien aller. Autre sujet qui m'a marqué, dont je voulais vous parler, c'est mes sympathies à la famille Brûlé. C'est le cas de Michel Brûlé, où est-ce que on le sait, a été reconnu coupable d'agression sexuelle et est en attente là, pour avoir sa sentence. Il y avait une audition pour déterminer combien ça allait être, quoi sa punition en quelque sorte. Là, on savait qu'il était au Brésil. Il ne s'était pas présenté à une audition parce qu'il y avait un problème là, de communication en étant au Brésil. Et là, il est décédé. Tout le monde se dit ben, il a peut-être essayé de se sauver de son procès. Il n'est peut-être pas vraiment mort. Il y a toutes sortes de rumeurs. Sur les médias sociaux, ça s'est enflammé comme si Michel Brûlé s'était fait mourir parce que ça existe. C'est déjà arrivé, ce genre de cas-là. Il y a même en France, il y a une expression qui s'appelle... C'est pas le suicide, là, mais ça sonne un peu pareil. J'étais en train d'essayer de le trouver. Ouais, pseudocide, imaginez quelqu'un qui se fait disparaître pour renaître ou éviter des grosses dettes ou demander l'assurance pour être qu'un conjoint soit assuré puis on se donne l'argent par la suite, éviter une peine qui est assez substantielle. Par contre, je vous le dis, pour ce qui est de Michel Brûlé, ce n'est pas le cas, c'est malheureux. Là, on va demander une preuve d'un certificat de décès et moi, je suis pas mal sûr que certain que c'est pas un cas de vouloir se faire disparaître. Écoutez, c'est quand même, je veux pas banaliser ce qu'il a fait, mais c'est pas des années de prison qui lui pendaient au nez, là, parce qu'on parlait d'une agression. Il y a des niveaux dans les agressions sexuelles. Là. Lui, c'était un peu de premier niveau là, d'attouchement. Et c'était pas allé plus loin. C'est, encore une fois, je pardonne pas le geste, mais on parlait pas de beaucoup de temps d'emprisonnement pour Michel Brûlé, donc je pense pas qu'il y avait aucun intérêt à disparaître. Et évidemment, toute la complexité, quelqu'un qui disparaît, ses biens, il y a des héritages, il peut perdre ses biens, donc ça peut être très complexe. Et oui, ça ressemblait à une histoire de film de quelqu'un qui est au Brésil, puis qui veut pas revenir, veut pas subir son procès. Mais pourquoi il aurait fait ça? Parce que c'est pas vrai que ça en allait des années en prison. Donc, je voulais clarifier cette situation-là parce que ça a fait beaucoup jaser cette semaine.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Cette semaine, deux gros dossiers touchant les Autochtones. On a vu ce qu'on a découvert avec les 215 paires de chaussures pour dénoncer l'horreur des pensionnats autochtones. Toute cette horreur-là, on a vu le gouvernement s'excuser. On se demande à l'époque comment on pouvait faire des choses comme ça, vouloir déraciner des Autochtones et les rééduquer pour qu'ils deviennent des bons citoyens. Ça n'avait pas de sens. Maintenant, on s'en rend compte, on s'excuse. Aussi, on parle du dossier de Joyce Echaquan, où est-ce que il y a eu une enquête publique du coroner et on apprend des choses qui n'ont pas d'allure. Mais là, ça se passe pas il y a 100 ans, là, ça se passe maintenant. Et il y a eu quand même des révélations troublantes dans ce dossier-là. Et on voulait l'opinion d'un docteur en droit constitutionnaliste, Maître Frédéric Bérard, qui est avec nous. Bonjour.
Salut, François-David.
Salut. C'est des gros dossiers. Je voulais t'entendre là-dessus. Dans le sens, bon, on va commencer par les pensionnats. Là. Les pensionnats, à l'époque, c'était légal. Là.
Ben oui, puis c'est. Écoute, moi, je suis encore un peu bouleversé là, de cette histoire-là. Des 215 corps d'enfants retrouvés, notamment des enfants de 3 ans. Mm-hmm. Humainement parlant, là, si on se ramène à la base, parce que c'est ça, hein, c'est un drame humain.
Ouais.
Je reprends ce que tu disais en introduction. Comment on a pu se rendre là? La petite histoire, c'est que on a déjà eu au Canada au moins un premier ministre fédéral absolument raciste, très raciste, ouvertement raciste, qui s'appelait Johnny McDonald, que tu connais bien.
Ouais.
Qui avait fait adopter au Parlement la loi sur les Indiens, qui existe encore, qui est une loi encore raciste, qui est une loi ségrégationniste.
Mais, parenthèse, Frédéric, comment ça, c'est pas changé, ce nom-là, les Indiens?
Ben, ça, c'est abject. Le gouvernement de Pierre Trudeau avait voulu modifier ça dans les années 70. Il avait nommé Jean Chrétien comme ministre des Affaires autochtones. Les Autochtones étaient tombés en amour avec Chrétien et vice-versa. Il avait même adopté un enfant autochtone, un de ses fils là, qui s'appelle Michel, si ma mémoire est bonne. Ça pour dire qu'il y avait eu des rapprochements importants. Après ça, dans Meech, bon, évidemment, ça avait foiré avec Elijah Harper, mais on avait essayé après Meech, juste avant Charlottetown et pendant Charlottetown, de faire certains rapprochements. Et je pense que plusieurs politiciens canadiens, là, je parle au niveau fédéral, mais évidemment, ça peut être ailleurs aussi, au niveau provincial, se sont dit, sais-tu quoi, c'est tellement compliqué qu'on est mieux de ne pas y toucher. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plusieurs nations autochtones au Canada. Hein? C'est pas, on parle des Autochtones comme si c'était un bloc monolithique.
Ouais.
C'est pas vrai. Ils pensent pas tous la même chose. Ils habitent pas à la même place. Ils n'ont pas nécessairement la même couture, les mêmes coutumes non plus. Puis faire un petit crochet rapide, au Québec aussi, pendant longtemps, il y a eu à l'Assemblée nationale une espèce de salle de conférence, je me trompe pas, qui s'appelait la salle des sauvages.
Des sauvages.
Tu sais, c'est rough, là.
Ouais.
Donc, tout ça pour dire que, puis en plus, pour ceux qui là se disent, ah ben là, Bérard, ils battent le fédéral, tant mieux, on n'a rien à voir là-dedans, mais une petite minute, là. Allez lire Lionel Groulx, là, qui a à peu près 874 bébelles à son nom au Québec, des cégeps, des facultés de sciences sociales, des rues, puis toute la patente des métros. Ben, Lionel Groulx a écrit, a vanté les pensionnats autochtones. Il fallait, selon la religion catholique de l'époque, rééduquer ces petits bâtards, puis en faire des bons petits Canadiens, des bons petits chrétiens. Je veux dire, c'est complètement abject. En d'autres termes, le Québec a eu sa part là-dedans. On a eu nos pensionnats autochtones aussi ici.
Oui, il y en a eu deux, trois, là.
Ouais, fait qu'en fait, je pense même on m'a dit une dizaine, mais
dizaine.
Là, c'est peut-être à des niveaux variables, tu sais, je le sais pas, mais tout ça pour dire que de toute façon, l'idée, c'est pas de savoir qui est le plus responsable ou le moins responsable. L'idée, c'est de savoir, à quelque part, nous sommes tous un peu. Je veux dire, c'est pas ta faute à 100%, c'est pas la mienne à 100%, sauf que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ces erreurs-là de nos ancêtres? Moi, je pense que le débat est surtout là.
Mm-hmm.
Premièrement, la loi sur les Indiens, faut que ça prenne le bord, puis je veux dire, là, ça a juste plus de bon sens. Puis pendant qu'on se parle, toi puis moi, là, François-David,
ouais.
Il y a actuellement 39 réserves autochtones au Canada qui n'ont pas d'eau potable.
Mm-hmm. Et des situations extrêmes, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme, de drogue. J'ai eu des amis qui ont vécu sur des réserves, puis c'est difficile, là. C'est extrêmement difficile.
Écoute, si tu regardes à l'ONU les rapports annuels sur dans à peu près n'importe quel domaine en matière de liberté civile, là, mm-hmm. le Canada va faire bonne figure. Il finira pas toujours premier, là, mais il est pas dernier non plus. Il est toujours dans les premiers 5, 10, 15. Sauf en matière autochtone. Là, ouais. on se fait ramasser tous les blâmes que l'on reçoit de l'ONU par matière autochtone. Mais qui s'achale de ça? Personne. Et là, tu vois, je ne veux pas trop être philosophe, mais si au moins la mort ou l'assassinat, en fait, parce que c'est un génocide dans un pensionnat, là, ouais. la mort de ces 215 enfants-là, si au moins elle pouvait servir à réveiller les consciences en disant, parce que c'est longtemps, là, Sophie Durocher, qui est à ton micro à Cube Radio, elle a reçu Michel Jean, mm-hmm. puis elle a fait une chronique là-dessus, Sophie, puis Michel Jean a dit quelque chose comme, ben, il était temps que vous allumiez, là. Ça fait X temps qu'on vous le dit. Puis c'est vrai, il a raison. On nous dit, c'est clair, c'est net. La réalité, c'est que nous, les Blancs, là, si on peut se qualifier ainsi, ben, on n'écoute pas. Or,
ben, c'est
des mesures à faire.
C'est ça, des mesures. Puis c'est surprenant quand même, parce que on parle de droit, même dans le code criminel, depuis longtemps, on reconnaît la situation autochtone. Ce qu'on dit, c'est que quelqu'un, un Québécois moyen, naît dans une société qui l'influencera pas au crime. Il est pas prédisposé à commettre des crimes. Et là, on reconnaît la situation des pensionnats, où est-ce qu'un autochtone, un jeune est dans ce milieu-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de crimes, et on va mettre des peines moins sévères. Les gens ont de la difficulté à comprendre ça, mais pas parce qu'on veut leur donner un passe-droit, parce qu'ils ont beaucoup moins de chances que quelqu'un qui naît dans une société où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de criminalité. Eux, ils ont beaucoup plus de chances de mal se comporter dans ce genre de milieu-là. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît la situation, mais ça prend toujours des drames, puis où, là, comme il n'y a rien qui frappe plus l'imaginaire que ce qu'on découvre en ce moment, des charniers d'enfants, j'imagine, pour nous réveiller. Là.
Ah, c'est écoute, moi, je suis désolé, là, mais ça me rentre pas dans le coco que je sais qu'il y en a, de ce que je comprends là-dedans, qui sont peut-être morts de la tuberculose, des trucs mais c'est parce que leurs parents n'ont aucune idée qu'ils étaient morts, là. Ah. C'est-à-dire, on les a volés à leurs parents, là. Mm-hmm. C'est ça, la réalité, là. Puis ça, c'est pas sur fond de racisme, je sais pas c'est quoi. Tout ça pour dire, t'as raison de soulever le truc du code criminel, puis on pourrait parler aussi des traités en matière de pêche, et ça crée des frustrations, ça, par exemple, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, puis on peut comprendre des pêcheurs blancs qui se disent « Oui, mais comment ça se fait que nous autres, on n'a pas le droit? » Puis ça. La réalité, c'est que tout ça est excessivement complexe, parce que c'est bien mal parti depuis le début.
Ben oui.
Donc, on a fait un échafaud tout croche, basé sur tu sais, là, dans la fondation, là, dire ça c'est même pas un château de cartes, ça serait insulter un château de cartes que de dire ça.
Ah ouais.
Et puis là, on essaye de repatcher ça à gauche, à droite. On va vous donner ci, puis ça, puis tati, puis excusez. Puis là, les tribunaux s'en sont mêlés une couple de fois. Là, c'est comme s'il avait garoché un 18 roues de gaz sur le feu qui existait déjà. Mm-hmm. Alors, c'est pas pour dire, je n'ai pas la prétention, mon ami, de pouvoir te donner des pistes de solutions intelligentes en droit. Parce que c'est excessivement complexe.
Ben, c'est complexe, ouais.
Mais ce que je sais, par contre, ça, je suis sûr de pas me tromper là-dessus, c'est que franchement, est-ce qu'on peut se servir, c'est complètement ironique ce que je veux dire là, mais de cet événement atroce pour essayer de finir par comprendre l'évidence, c'est-à-dire que c'est dégueulasse ce qui s'est passé. C'est dégueulasse ce qui se passe encore. On vient de conclure... Ben... l'enquête publique dans l'affaire de Joyce.
En plein ça, j'allais là. C'est à l'époque, on critique, on dit comment à l'époque ils pouvaient agir comme ça, tu sais, puis c'est normal, là. Mais là, on se rend compte qu'il y a encore des séquelles de ça, puis il y a encore des agissements totalement Que, je sais pas c'est quoi le mot, là, déplacer, je pense que c'est pas assez fort.
Oui, déplacer, on est dans l'euphémisme.
Ouais, c'est ça.
Dans une des phrases, moi, qui m'a tué, moi, au moins, c'est juste d'un point de vue figuré, puis pas au propre, contrairement à Joyce. C'est vous autres, les Autochtones, vous êtes juste bons pour fourrer puis faire des enfants, puis après, venez vous plaindre d'ici.
Aïe, aïe.
Ça, c'est la personne, c'est l'infirmière qui est supposée soigner, là, qui est payée avec tes taxes puis les miennes. En tout cas, toi, t'en payes beaucoup plus que moi parce que t'es riche.
Non.
Mais cette infirmière-là est payée. J'essaie de faire un peu d'humour parce que moi, ça me bouleverse de bord en bord. Cette infirmière-là est payée pour soigner quelqu'un. Et non seulement ils l'ont laissé mourir, en fait, ils l'ont pas mal fait mourir. Puis, je veux dire, une erreur médicale, ça peut arriver. Mais une erreur médicale sous fond de racisme, ça, franchement, là, on vient de pogner un niveau. Puis quand elle est morte, il y a un témoignage d'une fille qui était là, qui a dit, ils ont mis un sac à poubelle sur la tête, un sac à poubelle sur la tête. Il y en a une qui a dit, une infirmière ou une préposée aux bénéficiaires, je sais pas, a dit, bon, enfin, elle est morte, elle va arrêter de nous écœurer.
Ah! Bon, ça fait pas 100 ans, là, ça s'est passé.
Ben, ça fait même pas un an. Donc, tout ça pour dire, t'as raison, à la limite, le truc des pensionnats, on peut se dire, puis moi, ben là, attends une minute, moi, j'ai pas voté pour ça, je suis même pas au courant, puis quand on a commencé à voter, ça existait plus. Mais la fête de Joyce Echaquan, évidemment, on va pas prendre le blâme pour chaque acte raciste au Québec, mais il reste une affaire, par contre. Et tu vas voir le rapport de la commission vient sur les relations avec les Autochtones. Il dit très clairement qu'il y a du racisme systémique au Québec et qu'il y en a particulièrement à l'hôpital de Joliette et à celui de Sept-Îles. C'est documenté. Donc là, on le sait. Puis ce qui me désole encore plus, parce que j'imagine que le temps nous bouscule,
oui.
La chose suivante, c'est que les amis de Joyce, donc ses amis, ses proches, ses sympathisants, peu importe, sont débarqués à l'Assemblée nationale, François David, cet automne. Mm-hmm. Avec une motion préparée qui était la suivante, et je te la lis de mémoire, s'assurer que les Autochtones puissent avoir droit aux mêmes soins de santé que les autres Québécois, sous-entendu sans se faire tuer. Eh bien, le gouvernement caquiste, le gouvernement de François Legault, a fait battre cette motion-là qui avait été approuvée par les trois autres partis.
Ouais. Pourtant, là, c'est de base, mais on ne veut pas reconnaître le racisme systémique.
Ouais. Seul au Québec à trouver que c'est l'ironie la plus mordante. La fille est morte du fait du racisme systémique et on va refuser de reconnaître une motion qui voudrait faire en sorte que les Autochtones arrêtent de mourir pour cause de racisme systémique. On dit, ben non, on va reconnaître le racisme systémique.
Ouais.
Là, la réalité, là, c'est que l'ONU, là, le Comité des droits de l'homme, va le reconnaître pour nous. Et là, on va avoir l'air drôlement intelligent à l'échelle internationale. Puis tu veux savoir quoi? À quelque part, c'est peut-être ça qu'on mérite.
Ah non, mais c'est ça. Puis plus ça change, plus c'est pareil. On est encore dans les cachettes. On prend pas, on fait l'autruche. On prend pas de front et problème. Et j'aime beaucoup ton analogie de la base là, qui est tout croche. Puis quand même, tu renforcis le dessus, ça va tout le temps chambranler. Et malheureusement, avec des drames comme ça, c'est là qu'on devrait se réveiller. Mais on sent que c'est pas encore le cas. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais c'est tellement important comme sujet. Et on espère toujours du changement. On espère surtout que ce genre d'agissement-là cesse dans notre société moderne. Merci, Frédéric.
Ben merci à toi, puis tu sais quoi, d'avoir des tribunes comme ça, puis laisser de la place à ces sujets-là, ben c'est grâce à du monde comme toi que petit peu par petit peu, on va réveiller des consciences, ouais. On va nous-mêmes s'auto-éduquer, parce que
ben c'est oui.
On sait pas, et puis on va travailler, espérons, dans le bon sens.
Ben oui, puis merci, puis grâce à toi aussi, puis on se repart la semaine prochaine pour un autre gros dossier. Fait que bonne semaine, bye!
Salut!
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Pierre Fitzgibbon démissionne de son poste de ministre. C'est cette semaine, mercredi. Il a été éclaboussé par un nouveau rapport embarrassant de la commissaire à l'éthique. On le sait, ça fait plusieurs fois que ça revient dans l'actualité. Il fait des affaires, ça touche le gouvernement. À quelques reprises, il a résisté. On ne l'a pas vu démissionner. Par contre, là, c'est fait, il a démissionné. Est-ce qu'on est mal organisé avec les ministres qui sont en affaires? Qu'est-ce qui arrive avec cette démission-là? Pourquoi maintenant? On en parle avec Maître Jean-Paul Boily qui est là. Bonjour.
Oui, bien, c'est plate un peu cette histoire-là parce que il faut comprendre une chose. Lorsque les gens viennent en politique, il y a des règles qui sont là, qui sont établies. Les règles sont connues par tous avant qu'on se présente. Bon, M. Fitzgibbon vient du milieu des affaires. C'est pas la première fois. On l'a vu à Ottawa, on en a parlé à l'émission abondamment. Là, des gens qui ont été obligés de démissionner aussi, l'ancien ministre des Finances à Ottawa, parce que il y avait des règles sur les conflits d'intérêts. Ils doivent mettre leurs avoirs, les avoirs actifs qu'on appelle, là, c'est-à-dire que les avoirs qui peuvent être rentables, qui peuvent pas de façon passive, là, si vous avez, je sais pas moi, un véhicule usagé dans votre garage, vous n'avez pas besoin de mettre ça en fiducie, là, mais quelque chose qui peut rapporter. Donc, le ministre, lui, c'est quelqu'un qui vient du milieu des affaires. Il y a plusieurs portefeuilles, je parle pas de ministère, mais portefeuilles d'actions ou d'actifs qui sont pas passifs, qui sont actifs. Donc, il y a des règles à suivre. Et là où M. Legault, je pense que je rejoins un peu sa pensée, il disait faudrait les changer, ces règles-là. Si on va voir des gens qui sont, on va voir tout à l'heure la réaction du milieu des affaires, qui est pas très, très positif. Hein. On est en pleine relance économique. Là, on sort d'une pandémie ou à peine, même pas encore. On a besoin de gens pour faire la relance économique. Puis là, ben, à cause des rapports, le commissaire se fait quatre fois là, qu'il fait des plaintes, pas des plaintes, mais il fait des reproches au ministre. Alors, le ministre, lui, à un moment donné, la force de se faire dire tap-tap-tap, taper ses doigts, là, ben, il est tanné. Puis là.
Ben là, parce qu'il n'est pas arrivé de quoi de gros, non. Comme on a eu la preuve qu'il s'est servi personnellement des intérêts. Mais c'est un problème parce qu'en politique, on n'aura jamais de gens d'affaires qui ont de l'allure. Parce que là, je me rappelle la dernière fois, c'était un fonds que lui avait lancé, mais qui était fermé, qui avait encore des intérêts. Exact. Mais on ne devrait pas changer ces lois. Je comprends qu'il y a eu la commission Charbonneau, mais on a peur de notre
ordre.
Mais est-ce qu'on devrait mettre des nouvelles règles pour que nos gens d'affaires soient en politique puis qu'ils gèrent bien l'économie? Là?
C'est ce que M. Legault semblait dire. Or, les partis d'opposition, évidemment, ils ont fait les choux gras avec ça en disant, regarde, nul n'est censé ignorer la loi. On est des avocats, on le sait. On doit respecter la loi. Là où il y a un problème, c'est que on veut attirer des gens d'affaires. Puis là, M. Fitzgibbon disait cette semaine, ce que vous me demandez de faire là, c'est pas compliqué, je vais perdre 1 million. Ben, je sais pas. Même si le gars vaut, je sais pas, 50 millions, c'est pas la question. C'est pas de perdre 1 piastre, 10 piastres ou 1 million. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut pas faire des règles qui vont être un peu plus assouplies parce qu'on vit dans un monde d'apparence. Vous le savez, Maître Bernier, c'est toujours comme ça en droit, en justice et en matière, par exemple, de règles à l'Assemblée nationale. Encore plus, les députés, il doit avoir une apparence de transparence absolue. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce que, parce que là, le milieu des affaires, j'ai vu la déclaration du président de la Chambre de commerce à Montréal cette semaine, il dit, écoutez, là, on avait l'impression qu'on avait exactement l'homme de la situation au point de vue économique, puis là, on dit, pour des raisons politiques, ben, c'est pas juste politique, là, c'est des raisons de règles de droit. Puis on remet pas en cause son intégrité, mais on va nous priver de ses compétences-là. Alors, là, c'est de dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça soit absolu, l'apparence qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, même si monsieur détient des actions dans des sociétés qui peuvent faire affaire avec la couronne, parce que c'est le cas. Il y a deux sociétés, entre autres, et c'est pour ça que le commissaire à l'éthique a dit, écoutez, monsieur, vous avez le choix.
Mais il détient des actions votantes dans le sens qu'il y a un pouvoir décisionnel.
Ben, c'est-à-dire que oui, mais il peut être minoritaire. Et puis, vous savez, dans une entreprise, comment ça fonctionne? Un actionnaire va à l'assemblée annuelle, il entérine annuellement le vote, les décisions des administrateurs pendant l'année Souvent, ça se fait de cette façon à peu près automatique. Bon, si t'es pas administrateur d'une entreprise, t'es seulement actionnaire, ben, t'es-tu actionnaire de contrôle? On a eu un cas, un moment donné, ici à l'Assemblée nationale, où c'est notre grand patron, ici à Québécois, qui était chef de parti, puis évidemment, les partis d'opposition disaient, ben écoute, il est quand même l'actionnaire de contrôle de certains médias. Ça serait peut-être pas bête que, pendant que la période où il est chef de parti, ben, il n'y a pas cette apparence de conflit. Parce que, à ce moment-là, M. Pelladeau, pas de nommé, il était propriétaire majoritaire dans des entreprises médiatiques. Bon, ça, c'est une chose. M. Pelladeau, à ce moment-là, a fait ce qu'il avait à faire.
Mais en plus, puis, lui, ce que je comprends, c'est que tout était connu dans le temps et on voulait aller plus loin de dire, on va être sûr qu'il n'y a pas de contrôle.
Exact.
Mais avec Pierre Fitzgibbon, est-ce qu'on a fait des erreurs au départ? Parce que, est-ce que s'il avait tout dévoilé ses actifs,
il l'a fait. Oui, okay. Tout à fait.
Donc, il n'y avait pas de solution.
Ben, la solution, c'était de vendre ses parts ou de faire, comme d'autres ont déjà fait, mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. À ce moment-là, ben, tu ne contrôles rien. Ça devient des actifs, ouais, entre guillemets, passifs.
Qui va vouloir aller en politique?
Ben, c'est lié là, le problème.
Je veux dire, c'est quelque chose de gros à demander.
On demande à quelqu'un de dire, regarde, t'as travaillé toute ta vie, t'as ramassé un pécule, parce que c'est son cas, on est bien content pour lui, mais on aimerait avoir votre expertise, votre expérience, vos contacts économiques. Puis c'est important, c'est le ministre de l'économie. Lui, là, il connaît bien du monde. Bon, il a nommé le directeur de la Caisse de dépôt, c'est un de ses amis. C'est normal. En politique, tu nommes-tu quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas? Tu nommes quelqu'un à qui tu as confiance, tu nommes, ça a toujours été ça, c'est tout le temps le cas. Donc, ce monsieur-là, et c'est pour ça que les gens des chambres de commerce, entre autres, et les entreprises, ils sont pas d'accord avec ça. Ils disent, voyons, il faut trouver une solution, il faut trouver une solution qui va faire en sorte que ces gens de valeur au niveau économique, on va être capable, on n'aura pas juste, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on n'aura pas juste des avocats puis des journalistes à l'Assemblée nationale, on va avoir des gens qui connaissent l'économie, on va avoir des gens ensemble. On va avoir des gens, des fois, en ingénierie. Avant, vous saviez, à l'Assemblée nationale, il y a 50 ans, à part des avocats puis quelques journalistes...
C'était des politiciens de carrière.
Puis c'était... Il n'y avait pas d'économistes, il n'y avait pas de gens. Les premiers qui ont été là, on a eu Jacques Parizeau à l'époque, Bernard Landry et autres, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était tous des politiciens de carrière ou c'était des avocats ou des gens qui venaient des milieux des médias. Il n'y en avait pas d'autres.
Alors, on comprend ça, mais Maître Beaulieu, on veut la vérité, les vraies choses.
Parlons-nous des vraies affaires.
On va aller dans les coulisses. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, il a tenu le vent dans la face, comme on dit. Il a tenu la route. Il restait au gouvernement, malgré d'autres réprimandes qui... pour moi, ne sont pas le scandale.
Non, pas du tout. C'est l'apparence.
Et là, qu'est-ce qui arrive? Là? Il démissionne.
Ouais, mais il reste député.
C'est le premier ministre qui c'est trop lourd à gérer? C'est quoi qui s'est passé en réalité?
Ben, exactement.
Il n'a pas démissionné, ce gars-là.
Ben, en fait, oui. Il a donné sa démission
au premier ministre. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé en coulisses?
Le premier ministre, son chef de cabinet, il disait, écoutez, là, on ne peut plus défendre l'indéfendable. Là, les médias étaient tous sur le dos de Fitzgibbon. Puis ça devient politiquement
non rentable.
Ben c'est ça. On sait que là, il y a des pressions énormes. Et là, il faut comprendre une chose. Il a démissionné de son poste de ministre. Il n'a pas démissionné de son poste de député. Parce que comme député, il peut détenir certains...
Donc, le parti ne le voulait plus.
Non, je pense pas. Au contraire, moi, je pense qu'on veut le garder, puis je suis pas sûr qu'il se représentera pas à la prochaine élection. Pourquoi? Parce que là, il va peut-être demander à ce que les règles soient changées. Ça veut pas dire qu'il va l'obtenir. Hein? Ça prend l'assentiment des trois quarts de l'Assemblée nationale. C'est pas sûr que ça va passer. Mais si ça passe, puis il se représente, là, il va pouvoir dire, hey, attendez un peu. Là. Moi, là, j'ai tout suivi les règles, on a changé les règles, puis là, dorénavant, je me représente comme député, puis je veux redevenir ministre. Il pourrait le faire, très bien. Et puis ça, à ce moment-là, ça, on appelle ça la bénédiction de la population. Hein? Se faire réélire en disant, vous me connaissez, vous savez qui je suis maintenant. Au départ, il savait peut-être pas. Il disait, oh, Pierre Fitzgibbon, oui, c'est quelqu'un de bon, puis il avait été présenté comme étant un homme d'affaires qui avait réussi, etc. Mais les gens le connaissaient pas nécessairement vraiment. Les gens d'affaires le connaissaient, mais la population qui vote, en général, ne le connaissait pas. Maintenant, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire qu'il connaissait pas Pierre Fitzgibbon. Alors, si ce monsieur-là là qui veut continuer à servir. Écoutez, je veux pas charrier, là, mais gagner 155 000 $ ou à peu près par année avec un petit bonus de 15-20 000 pour tes dépenses, alors que tu peux en gagner 2-3 millions dans une entreprise à pas te faire, excusez-moi, toute la journée, je veux dire, il faut avoir une ferveur, il faut vouloir servir.
C'est quand même dommage, là, il doit se retirer pour peut-être revenir. C'est qui va le succéder, là?
Ah ben là, c'est Éric Girard, présentement, qui prend le contrôle de ça, qui était déjà aux finances. Alors, d'ailleurs, il a déclaré cette semaine qu'il prenait pas ça, juste, c'était pas une job d'été, là, c'était une job à temps plein. Bon, tant mieux, il prend comme ça, mais je pense qu'un ministère comme ça, de l'économie, ça va prendre un nouveau ministre. Probablement que M. Legault va être à préparer. Vous savez, après quelques années qu'il gouverne, puis il y a eu la COVID et tout ça, offusquant de penser qu'il va peut-être avoir un petit remaniement de cabinet à un moment donné. Puis ce ministère-là de l'économie, qui est quand même un ministère assez important, surtout, on l'a dit tantôt, là, en matière de relance, il va nommer un nouveau ministre. Mais en attendant, c'est M. Girard qui va faire la job, puis il est là pour ça.
Oui, mais la menace de la COVID semble être passé.
Ouais,
la menace de la récession, c'est dangereux, là. On a vécu des temps difficiles. Ça sera quoi les répercussions?
C'est sûr que ça
on
peut.
On le sait pas.
On sait pas. Puis
on espère avoir à la barre de l'économie quelqu'un
solide. Qui connaît l'économie, puis qui connaît les affaires, puis qui connaît le milieu. Un autre qui va avoir des actions d'une entreprise, fait qu'avoir encore
donc,
des plaintes au commissaire,
on va pas rester là non plus.
Travers, puis encore.
Ça prend un changement dans les règles. Là, on comprend, on veut pas. Oui, on a été chaudé sur la corruption au gouvernement, mais là, faut pas que le balancier est trop loin de l'autre côté.
Non, parce qu'on a besoin de ça.
Là, la paranoïa, je pense que dans ce cas-là, ça ressemble un peu à ça.
Ouais, mais merci. Changeons les règles.
Ouais, merci, Matt Boily.
Cube Radio.